Il est temps de commencer. Bonsoir à tous. Bienvenue pour cette 9e soirée d'éthique publique de l'année universitaire du Centre Sèvres, des facultés jésuites de Paris, en partenariat avec la revue Croire aujourd'hui. Dernière soirée de l'année, mais nous espérons vous retrouver dès octobre prochain pour faire vivre cette proposition qui, votre présence nombreuse et souvent fidèle mois après mois l'atteste, semble rejoindre les attentes et les préoccupations de beaucoup à partir de questions qui, de près ou de loin, concernent notre rapport à la vie publique, sociale, politique, professionnelle, internationale. L'objectif que nous nous sommes fixés est bien d'essayer de nous donner les uns aux autres, souvent trop brièvement parce que le temps est court et les sujets complexes, un certain nombre d'éléments de compréhension et d'analyse, et pouvoir ainsi repérer des critères, repérer des pistes qui nous permettront de mieux nous situer les uns et les autres dans les différentes situations de notre vie, des pistes aussi pour continuer notre propre réflexion personnelle avec d'autres. Alors, au terme de ce que nous avons parcouru ensemble cette année, nous avons la faiblesse de croire, ce qui n'est pas mal vu dans cette maison, que cette proposition, ce lieu de rencontre et de débat, peut intéresser un public plus large encore, et que sur ce point, vous êtes sans doute les mieux placés par le bouche à oreille pour faire connaître ces soirées. Et je suis heureux de pouvoir vous annoncer qu'il est désormais possible d'écouter ou de réécouter dès le lendemain des soirées d'éthique, l'enregistrement de la soirée sur le site internet du Centre Sèvres, www.centresèvresattaché.com. Mais je crois que vous avez ça sur le papier qui est sur votre siège. Vous avez dû trouver en effet à côté de la revue Croire aujourd'hui une feuille qui rappelle les différents thèmes problématiques que nous avons essayé d'aborder cette année, les invités qui nous ont aidés à y réfléchir. C'est une manière habile de vous inviter peut-être à ceux qui sont venus à une certaine relecture, c'est de bonne guerre chez les jésuites de proposer ça, mais surtout de vous proposer de nous faire part de vos suggestions pour l'année prochaine. Donc si vous le désirez, n'hésitez pas à remplir cette feuille, il vous sera possible de la déposer soit à la sortie, soit dans les semaines qui viennent au Centre Sèvres, ou bien par la poste ou par email. Vos suggestions, vos remarques seront précieuses pour l'an prochain. Nous terminons notre année avec un sujet, pourrait-on dire, malheureusement, toujours d'actualité. Parler du Proche-Orient, du conflit israélo-palestinien, c'est toujours un exercice délicat. Nous entendons beaucoup de choses sur cette région. Un certain nombre d'entre vous la connaissent. Et plus qu'aucune autre région du monde, sans doute, elle n'arrive à nous laisser indifférents, même quand la lassitude et l'incompréhension risquent de nous submerger. D'où cette question qui habite souvent un certain nombre d'entre nous. Peut-on un jour vraiment croire à la paix entre Israéliens et Palestiniens? Après de nombreuses occasions ratées, après beaucoup d'espoir soulevé à certaines périodes, et on se souvient bien sûr de la conférence de Madrid, puis des accords d'Oslo, le sentiment d'un immense gâchis nous met souvent dans une tristesse profonde, sentiment qui demeure alors que nous avons quand même du mal à repérer aujourd'hui quelques signes d'espérance, quelques signes de changement positif et encourageant, sans parler évidemment de la situation des chrétiens sur cette terre. Notre soirée, elle se situe dans une actualité importante, quelques semaines après le voyage du pape Benoît XVI en Terre Sainte, et alors que l'on observe avec attention l'évolution des relations entre Washington et Tel Aviv, notamment depuis que le président Obama a plaidé pour la création d'un État palestinien à côté de l'État hébreu et a appelé au gel total des implantations dans les territoires palestiniens, y compris celles déjà existantes. Le gouvernement israélien, avec son premier ministre Benjamin Netanyahou, ne cache pas son opposition à une telle démarche. De l'autre côté, malgré de nombreux efforts, de nombreuses médiations, les frères ennemis du Fatah et du Hamas n'arrivent pas à se retrouver autour d'un partage du pouvoir et d'un projet politique commun, le tout dans un environnement régional incertain. Notons que jeudi, le président Obama, après être passé par Riyad, sera au Caire, où il prononcera un discours très attendu au monde musulman, que dimanche prochain auront lieu au Liban les élections législatives aux résultats pour le moins incertains, et que le 12 juin se tiendront les élections présidentielles en Iran. Pour nous aider à réfléchir, aussi sereinement que possible sur l'avenir. Il nous fallait des personnes connaissant parfaitement bien la situation politique avec ses enjeux et leur complexité, mais aussi des personnes capables de se parler en confiance sans rien gommer des différences d'approche et des difficultés. Et je suis particulièrement heureux d'accueillir avec vous, en votre nom ce soir, M. Élie Barnavi et M. Antoine Sfert. M. Élie Barnavi, je parle sous votre contrôle, vous êtes né en 1946 en Europe, à Bucarest, mais vous avez émigré avec vos parents en Israël et vous avez grandi à Tel Aviv. Après des études d'histoire et de sciences politiques à l'Université hébraïque de Jérusalem et à l'Université de Tel Aviv, vous venez à Paris pour votre thèse de doctorat à la Sorbonne. Et vous allez travailler alors sur le XVIe siècle français, sur les guerres de religion, les nôtres. Doctorat en poche, vous retournez en Israël où vous êtes nommé professeur d'histoire de l'Occident moderne à l'Université de Tel Aviv et où vous dirigez, je crois, le Centre d'études internationales. De sensibilité de gauche, je vous regarde pour être sûr que je ne dis pas de bêtises, vous serez pendant plusieurs années membre du mouvement La Paix Maintenant et vous ferez à Tel Aviv pratiquement toute votre carrière d'enseignant avant d'être nommé ambassadeur d'Israël en France en l'an 2000. Puis en 2002, retour à votre tâche d'enseignant et de chercheur à l'Université de Tel Aviv, quelques années avant d'être nommé directeur scientifique du Musée de l'Europe à Bruxelles, où vous êtes actuellement. Votre réputation d'historien n'est plus à faire. Vous vous êtes évidemment penché sur l'histoire d'Israël, sur le conflit israélo-palestinien. Je cite plusieurs de vos ouvrages sur le sujet. « Lettre d'un ami israélien » à l'ami palestinien chez Flammarion en 92, une histoire moderne d'Israël, toujours chez Flammarion en 94, la France et Israël, une affaire passionnelle chez Perrin en 2002, lettre ouverte aux Juifs de France en 2002, histoire universelle des Juifs avec Denis Charbit en 2002 et Israël-Palestine, une guerre de religion, point d'interrogation, aux éditions Bayard en 2006. Sans oublier, parmi vos autres ouvrages, le très intéressant livre « Les religions meurtrières » paru chez Flammarion en 2006 également. Et puis, à quelques jours des élections européennes, je crois qu'on ne perdra pas son temps en découvrant votre regard sur l'Europe à travers votre dernier ouvrage « L'Europe frigide » chez l'éditeur belge André Versailles. Un très grand merci de votre présence ce soir parmi nous. Je ne vous présente pas mon voisin de droite car vous connaissez. C'est peut-être pas le cas totalement de tous ici. Antoine Sfert est né au ça fait plaisir, hein, Antoine. Antoine Sfert est né au Liban en 1948. On pourrait dire de manière cavalière que vous êtes un fils de Gèse, puisque vous avez fait toutes vos études chez les Jésuites à Beyrouth, ce qui à mes yeux est plutôt une référence.
Et ça marque.
Vous commencez votre carrière comme journaliste, notamment au service étranger du quotidien libanais L'Orient le Jour, mais la guerre, dont vous aurez directement à souffrir, vous amènera en France, qui deviendra votre seconde patrie. Tout en continuant votre métier de journaliste, vous fondez en 1985 les Cahiers de l'Orient. Écrivain, consultant, vous êtes un spécialiste reconnu du monde arabe, de l'islam, des enjeux géopolitiques et religieux de cet Orient compliqué, pour reprendre le titre de l'un de vos ouvrages, « Vers l'Orient compliqué », cet Orient compliqué que vous ne cessez pas de sillonner. Vous présidez le Centre d'études et de réflexion sur le Proche-Orient et vous enseignez les relations internationales au CELSA. Parmi les nombreux ouvrages dont vous êtes l'auteur, je ne ferai que citer ce soir le Dictionnaire mondial de l'islamisme chez Plon en 2002, avec Nicole Bacharan, « Américain-arabe, l'affrontement », aux éditions du Seuil en 2006, Une brève histoire de l'islam à l'usage de tous aux éditions Bayard en 2007 et Vers l'Orient compliqué que j'évoquais à l'instant qui vient d'être republié en poche l'an dernier chez Grasset. Donc finalement, entre Élie Barnavi et Antoine Sfert, on a de quoi lire pendant l'été qui approche. Merci beaucoup Antoine d'être avec nous ce soir. Merci à tous deux de nous partager simplement, modestement et en confiance comment vous percevez la situation israélo-palestinienne aujourd'hui. Est-il encore possible, raisonnablement, de croire à la paix entre Israéliens et Palestiniens sur cette terre peut-être un peu trop promise? Qu'est-ce qui fait obstacle? Qu'est-ce qui peut aider Votre parole n'est évidemment pas une parole définitive, mais une parole pour ouvrir à d'autres paroles, à d'autres réflexions, ce que nous ferons après vos deux interventions d'un quart d'heure, 20 minutes chacun. Je vous laisse la parole, Monsieur Barnevi.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Vous êtes le seul à vous être préparé, je vois, je vous envie beaucoup. Je suis arrivé, moi, les mains dans les poches, et vite en plus. Je voudrais juste, comme une observation liminaire, si vous le permettez, vous avez cité gentiment une série d'ouvrages, mais en fait, mon métier, vous l'avez dit, c'est plutôt le XVIe siècle. Et si j'ai choisi le XVIe siècle, et à l'intérieur du XVIe siècle, les guerres de religion françaises, c'est parce que je pense qu'on ne choisit jamais un sujet de thèse par hasard, et que j'avais l'intuition que cette guerre de religion que j'étudiais dans un contexte différent, ici en Europe, allait m'apprendre quelque chose sur mes guerres, là-bas au Proche-Orient. Et j'aime raconter que le premier ouvrage que j'ai publié, que j'ai intitulé « Le Parti de Dieu », et qui traitait de la Ligue catholique, la Sainte Union, ce chapitre sanglant de la... le dernier chapitre de guerre de religion française, et bien peu de temps après cette publication, un parti est né au Liban qui s'intitule Hezbollah. Hezbollah veut dire en arabe exactement le parti de Dieu. Et j'étais toute ma vie obsédé par les permanences, par les structures mentales que l'on retrouve à travers les âges, à travers l'histoire, dans des sociétés différentes, et je reste persuadé que on a souvent, face à des problèmes semblables, on a des réflexes semblables, et qu'il y a comme ça des permanences qui sont extrêmement troublantes, et j'essayais d'apporter un peu de mon expérience, de ce que j'avais appris ici, là-bas, pour essayer d'y voir un peu clair, pour essayer de comprendre comment ce conflit israélo-palestinien, qui était un conflit d'essence nationale, entre deux mouvements nationaux, comment petit à petit il s'investissait d'une dimension religieuse, ça m'a toujours effrayé, parce que je reste persuadé que on peut faire la paix entre deux mouvements nationaux concurrents par la négociation, le compromis. Mais que lorsque la religion s'y mêle, la religion politique, la religion radicale, cela devient infiniment plus compliqué, sinon impossible. Et donc notre combat à tous est d'essayer tant qu'à faire, et aussi bien, tant bien que mal, de garder ce conflit dans ses limites nationales, ne pas le laisser déborder vers le religieux. Alors, vous avez posé une série de questions. Et d'abord, pour commencer par la fin, en quelque sorte, est-ce que la paix entre Israéliens et Palestiniens est encore possible? Je dirais qu'elle n'est pas seulement possible, elle est inéluctable. Je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. Et ce n'est pas seulement pour moi un vœu pieux. Je pense que tout passe dans cette vie. Sur cette terre, même la guerre entre Israéliens et Palestiniens, et je ne vois pas pourquoi tous les conflits seraient tôt ou tard solubles, et celui-ci resterait le seul au monde, dans l'histoire, qui ne le serait pas. Et donc je pense que oui, la paix est possible, la paix est même inéluctable, à condition que l'on comprenne ce qui se passe et qu'on s'en donne les moyens. Et là, je voudrais très brièvement vous faire part de quelques réflexions de bon sens, en laissant de côté la dimension éthique, justement, puisque nous sommes, cette série de conférences, de causeries est placée sous le signe de l'éthique. Je pense que, justement, l'éthique est simple. C'est la politique qui ne l'est pas. L'éthique est simple parce que on voit bien ce qu'il faudrait faire. Il faut mettre une frontière entre les deux peuples, créer un État palestinien au nom à la fois de la sagesse politique et de la justice, et que ce qui est bon pour l'un devrait être bon pour l'autre. Je pense véritablement qu'il n'y a pas de problème éthique. Il y a en revanche un énorme problème politique. Alors, j'attire votre attention sur un paradoxe qui me paraît assez extraordinaire. Nous en sommes arrivés à un point, après des dizaines d'années de négociations, où les deux peuples, les deux opinions publiques, israéliens et palestiniens, dans leur immense majorité, comprennent ce qu'il faut faire. Toutes les études d'opinion le prouvent. Il y a une très forte majorité d'Israéliens pour soutenir une paix de compromis raisonnable. Cette majorité reste stable chez les Palestiniens aussi. Et donc les opinions publiques sont prêtes aux sacrifices mutuels nécessaires pour aboutir à un accord de paix en bonne et due forme. Cela est vrai aussi, quoi que l'on pense, de l'ensemble des classes politiques. Si vous excluez les franges extrêmes des classes politiques des deux côtés, l'essentiel de ces classes politiques comprennent ce qu'il faut faire. Et ils le disent malheureusement lorsqu'ils ne sont plus au pouvoir, de manière très claire. Il leur arrive même de le dire pendant qu'ils sont au pouvoir. Mais il se passe en Israël quelque chose d'assez amusant, si l'on veut, c'est que nous avons des hommes politiques qui sont d'excellents commentateurs. Il n'est pas rare d'avoir des ministres importants qui se présentent à la télévision, à la radio et disent « il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela », comme s'ils n'étaient pas au gouvernement, comme si c'était des simples commentateurs. Mais enfin, dans l'ensemble, si vous voulez, ils ont compris, et si je prends l'exemple de mon pays, la discussion aujourd'hui au sein de la classe politique n'est pas pour savoir s'il faut se retirer des territoires, c'est pour savoir comment, c'est pour savoir dans quelle proportion. Donc le débat s'est complètement déplacé entre une discussion entre deux idéologies, n'est-ce pas, l'idéologie du grand Israël et l'idéologie du compromis, pour devenir un affrontement sur des modalités, sur la manière dont il faudrait faire ceci. Cela est vrai aussi, évidemment, du consensus international qui est absolu autour de ce qu'il faudrait faire, qui est d'ailleurs représenté par un organisme qui s'appelle le Quartet, où tout le monde est d'accord sur ce qu'il faudrait faire. Et nous avons négocié, nous disposons de modèles de négociation et d'accord depuis Oslo, en passant par Camp David et Genève et Taba et que sais-je encore, jusqu'à Annapolis. Tout est là, si vous voulez, en fait. Il n'y a plus rien à négocier. Il n'y a plus rien à négocier. Nous savons comment faire. Alors vous me direz, qu'est-ce qui manque? Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est cela qui est, à mon sens, sans précédent pratiquement dans l'histoire des conflits entre nations. C'est que tout cela étant en place, ces conditions étant remplies, on n'y parvient pas. On n'y parvient pas. Et je pense personnellement que cela est dû d'abord et surtout à l'extrême faiblesse des pouvoirs qui se font face. Il y a une faiblesse politique israélienne qui est due à la fois à un personnel politique médiocre et à un système politique catastrophique qui fait que nous n'arrivons pas à sécréter à renouveler notre personnel politique. C'est quand même extraordinaire qu'après des années d'échecs, les hommes qu'on a retrouvés, qui se sont fait face aux dernières élections, ça a été Barak et Netanyahu. C'est ainsi. Donc c'est un gouvernement qui est structurellement faible, parce que c'est un gouvernement de coalition, et des coalitions bancales, produit par un système, par un mode de scrutin absurde, à proportion intégrale. Et donc, il y a un décalage permanent entre le gouvernement et l'opinion israélienne, étant donné qu'un gouvernement de ce type, il a tendance à aligner ses positions sur les franges les plus extrêmes. C'est une espèce de loi politique, si vous voulez. Donc, faiblesse israélienne politique grave et faiblesse politique palestinienne, qui n'est pas de même nature, mais qui est encore plus profonde, puisque côté palestinien, on n'a pas seulement un gouvernement, on en a deux, vous connaissez la situation, qu'on a un état de guerre civile latente, et que je ne vois pas que ces deux tronçons du peuple palestinien puisse se raccommoder bientôt. Alors, que fait-on dans un cas pareil? Et vous me dites si je suis trop long, mais j'en ai pour quelques phrases encore. Que fait-on dans un cas pareil? Et cela fait des années que je le dis partout où j'ai l'occasion et on veut bien m'entendre. Dans un cas pareil, il est vain d'attendre que les parties se mettent autour d'une table et négocient utilement un traité de paix. Il ne faut pas attendre cela, personne n'est capable. Enfin, ceux qui sont allés le plus loin dans cette voie, ça a été tout de même Mahmoud Abbas et Ehud Olmert. Et vraiment, Olmert, ça je le sais, il a passionnément voulu y parvenir. Il n'a pas réussi pour les raisons que j'ai dites. Et donc, il nous faut une tiers partie. Il nous faut un tiers qui puisse imposer non pas les termes d'un accord possible, cela, je l'ai dit, nous savons faire, nous n'avons pas besoin, mais qui puisse imposer un cadre de négociation, des termes de référence, et qui puisse créer les conditions nécessaires pour que les parties puissent enfin aboutir à un accord de paix en bonne et due forme. Alors, pendant très longtemps, nous n'avons pas eu. Nous n'avons pas eu ce honest broker, comme disent les Américains. Évidemment, les seuls capables de remplir ce rôle, ce sont les Américains. Et les Américains, jusqu'à maintenant, n'ont pas fait ce travail. Ils l'ont fait de manière épisodique. Ils l'ont fait au moment du premier Camp David, lorsque Israël et l'Égypte sont parvenus à la paix. Ça a été le travail de Jimmy Carter. Ils ont commencé à le faire à l'époque de Bush père, dans la foulée de la première guerre du Golfe, lorsqu'il a forcé les partis, notamment Yitzhak Shamir, le premier ministre israélien à l'époque, de se rendre à Madrid. Ils l'ont fait au moment de d'Oslo. C'était le travail de Bill Clinton. Je suppose que nous y reviendrons, nous verrons les faiblesses de cette approche. Mais en fait, ils ne l'ont jamais fait de la manière dont ils auraient dû le faire, sauf le moment Carter. En fait, le modèle d'une intervention américaine, c'est là-bas qu'il faut le chercher. Tant que cette implication forte, puissante, déterminée et inconditionnelle ne sera pas en place, nous n'y parviendrons pas. Alors, il y a le phénomène Obama, et c'est, je pense que vous l'avez mentionné, Monsieur le Président, je pense que là, il y a, pour la première fois depuis longtemps, une véritable chance d'y aboutir, parce que ce tiers parti, comme on disait au XVIe siècle, existe bel et bien. Et qu'il a l'air d'avoir véritablement l'intention de faire des choses. It means business. Et on commence à en avoir des preuves qui s'accumulent jour après jour. Et je pense que c'est une excellente nouvelle. Voilà un peu les premières réflexions que m'inspire votre question. J'ajouterai juste encore un mot avant de vous rendre la parole. Il serait bon que l'Europe, puisque c'est aussi d'elle qu'il s'agit, soit capable de soutenir cet effort américain. Malheureusement, et c'est toujours le même problème, on arrive aux mêmes conclusions, l'Europe politique n'existe pas, ou elle existe, mais c'est une créature chétive et qui tient encore mal sur ses jambes. Je pourrais vous donner des exemples précis, nous y reviendrons peut-être au courant de la discussion. L'Europe n'existe pas. C'est-à-dire que les Américains se trouvent dans cette affaire-là un peu seuls. En revanche, ce que l'Europe peut faire, quand même, évidemment, c'est soutenir de loin l'effort américain, c'est affirmer des principes, ça, elle sait faire. Je pense que ce serait tout de même nécessaire. Mais, qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, le seul acteur sérieux sur la scène internationale reste les Américains, et il faut se féliciter, je crois, que maintenant le président des États-Unis s'appelle Barack Obama.
Merci. Merci, Monsieur Barnavi, pour ces premières réflexions qui nous mettent en route et qui sont déjà un certain nombre d'éléments intéressants pour notre réflexion, avec quand même cette conviction qui est la vôtre et que vous nous avez partagée, c'est que la paix est inéluctable, que tout est là, qu'il n'y a plus rien à négocier, que les opinions publiques, les classes politiques, finalement, sont tous prêts à cela, mais qu'il y a un certain nombre de conditions, notamment sur l'environnement, sur le rôle des États-Unis comme honnête courtier, cette tierce partie qui peut permettre ce que les parties israélo-palestiniennes n'arrivent pas toutes seules. Je retiens aussi cette remarque préliminaire, c'était de l'importance de garder le conflit dans les limites nationales, politiques, et pas de dériver sur le religieux. On pourra sûrement revenir pour savoir si on n'est pas déjà passé dans le religieux et que ce sera difficile de revenir aux politiques. Nous continuons la réflexion avec Antoine Sfer, qui aura forcément un autre regard, une autre approche.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci François, merci Élie pour ce que tu as dit. Je souscris totalement à ce que tu as souligné et tu as apporté comme possibilité. Personnellement, j'ai fait un rêve un jour, récemment, que la paix existait, a été signée, et que plus encore, les pays de la région ont décidé de bâtir une sorte de marché commun. La haute technologie israélienne, la profondeur territoriale jordanienne, la profondeur industrielle syrienne, le savoir-faire palestinien, le savoir-faire palestinien, et enfin le côté secteur tertiaire. J'ai failli dire, pardonnez-moi mesdames, des merdards des Libanais. Dans cette peau de chagrin qu'est le Proche-Orient, cette région serait dangereuse. Elle ferait peur à beaucoup d'autres pays de la région. Mais qu'est-ce qui empêche ce rêve de se réaliser? Je crois que Élie a souligné parfaitement la faiblesse des gouvernements. Il a oublié de dire qu'en face de la faiblesse du gouvernement israélien, il y avait... Faudra peut-être les choses par leur nom, les dictatures. Donc les défauts de représentativité des autres gouvernements arabes. Il y a aussi le fait que ce qui empêche sans doute, c'est que pour la première fois, et c'est ce qui me fait peur personnellement, dans l'histoire du peuple juif, j'entends en Israël des gens tentés par une sorte de ghettoïsation volontaire. Autrement dit, la phrase, puisqu'ils ne veulent pas vivre avec nous, vivons seuls. Et je crois que ce serait dramatique à la fois pour Israël, mais pour la région aussi, complètement. J'ai peur aussi du fait que, et force est de le reconnaître, depuis que les Juifs se sont retirés des pays arabes. Je suis très heureux de voir qu'au Maroc, les Juifs reviennent en force. Qu'ils soient séfarades, autrement dit venant d'Espagne et de l'Afrique du Nord, qu'ils soient ashkénazes, qu'ils soient levantins, le débat d'idées dans ces pays arabes s'est totalement arrêté. En quelque sorte, comme ce qui s'est passé un peu à Vienne, en Autriche, après la Seconde Guerre mondiale. Et je crois que c'est important, parce qu'en face, qu'est-ce qui répond? Il n'y a que le langage contestataire qui répond. Pour masquer les problèmes internes, pour masquer les disparités, pour masquer l'injustice, non pas seulement pénale, mais sociale, sans laquelle aucun État ne peut se revendiquer être un État de droit, il y a Israël. Donc le combat contre Israël, donc combattre le sionisme impérialiste, etc., etc. Je ne suis pas en train d'excuser les agissements du gouvernement israélien, loin de là, si nous voulons nous remettre sur le plan éthique. Loin de là, on aurait beaucoup à reprocher, à dire. Mais aujourd'hui, il faut arrêter l'hémorragie, d'un côté comme de l'autre. Il faut réellement arrêter de l'hémorragie. Il faut donner une réponse aux Palestiniens. Comment voulez-vous que le destin d'un Palestinien puisse s'épanouir, que ce soit en Cisjordanie ou encore pire à Gaza? Imaginez un peu un étudiant palestinien parmi les plus brillants de la région. Je vous rappelle qu'en Cisjordanie et à Gaza, vous avez 7 universités. Un étudiant qui sort après des études de droit ou de médecine, il est médecin. Il va soigner ses compatriotes, ses concitoyens. Mais ils n'ont pas d'argent. Donc il leur fait crédit. Lui-même doit faire vivre sa famille. Il va chez l'épicier. Il n'a pas d'argent. Donc l'épicier lui fait crédit. Mais un jour, le cercle va se boucler. L'épicier n'a plus d'argent pour s'achalander. Et le destin de ce médecin devient le départ. Et c'est ça ce qui est terrible. Mais on a la même chose du côté de Sderot ou du côté de Ashkelon. Il y a les gens qui sont venus en Israël pour vivre. Et puis ils sont obligés, reconnaissons-le, même si c'est dans une disproportion par rapport aux ripostes, etc. Ils partent, ils sont tentés de repartir. Qui d'entre nous est capable de donner des leçons à une mère palestinienne ou à une mère israélienne qui, le matin, envoie son enfant à l'école, mais qui n'est pas sûr de le revoir le soir? Moi, je n'en sors pas capable. Mais il ne reste pas moins qu'aujourd'hui, il y a aussi en Israël un autre problème que n'a pas soulevé Eli, à mon avis. C'est que pour la première fois dans l'histoire d'Israël, il n'y a plus de père fondateur. Si on excepte Shimon Peres, je ne sais pas quel âge a-t-il.
87 et toutes ses dents, enfin, une partie au moins. C'est...
Qui est aujourd'hui président de l'État, donc, mais qui est un poste honorifique. Si on excepte Ariel Sharon, qui est toujours sous acharnement thérapeutique. Malheureusement, je ne suis pas sûr que les pères fondateurs reconnaîtraient aujourd'hui l'État qu'ils ont voulu construire, c'est-à-dire un État laïque, un État socialiste. Les kibboutzim et les moshavim ne représentent plus que 4% de la société israélienne. Qu'est-ce qui empêche également? C'est aussi, il faut le dire, la montée de l'intégrisme. C'est là où les religions meurtrières du Libre-la-Vie sont passionnants à lire, même si on ne partage pas totalement, non pas les conclusions, mais parfois l'analyse. Mais il est un fait, c'est qu'aujourd'hui, l'intégrisme islamique est devenu un empêcheur de faire la paix. Parce qu'ils n'ont aucun intérêt pour faire la paix. C'est pour ça que, au grand Israël d'il y a 20 ans, répond aujourd'hui le pas d'Israël du tout des intégristes. Et l'exclusive n'a jamais abouti à une solution. Il est un fait également que cette exclusive ne se fait pas à l'égard d'Israël seulement, mais également vis-à-vis de tous les chrétiens d'Orient. Pour la première fois de ma vie professionnelle, on a sorti chez Bayard un numéro sur les chrétiens d'Orient, un livre, et pour la première fois j'ai utilisé le titre de « Et s'ils disparaissaient ?» C'est aussi un problème. À cela s'est ajouté quand même un autre problème. C'est la guerre sur l'Irak. Vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir. Si, ça a à voir. Si, ça a à voir parce que ça a déclenché un renfermement communautaire. Plus jamais, à Bagdad, vous ne verrez pour 4 ou 5 décennies vivre dans le même immeuble une famille chrétienne, une famille kurde, une famille sunnite, une famille chiite. Et ne me dites pas qu'à Beyrouth, ça s'est arrangé après la guerre. À Beyrouth, on ne vit pas ensemble. À Beyrouth, on fait des affaires ensemble. Et les affaires, ça n'a pas de Dieu. Mais quand vous rentrez dans la montagne, dans le vrai pays, les chrétiens sont chez eux, les druzes sont chez eux, les chiites n'ont pas encore trouvé de territoire réellement. Ils sont au sud, ils sont dans la Beka, mais ils ne sont que 60% au sud, et ils sont 55% dans la Beka. Et les sunnites sont sur le littoral. La partition, elle est faite sur le terrain. Moshe Charette, qui était le premier ministre des Affaires étrangères de l'État d'Israël, écrivait dans ses mémoires le devenir de l'État d'Israël dans cette région ne peut se faire que dans le cadre d'entités, je ne disais pas d'État, mais d'entités communautaires, éthico-religieuses. Il écrivait cela en 1954. C'était un visionnaire. Parce qu'il a bien vu que, vous dites, Élie et François, pourvu que on puisse confiner ce conflit dans un cadre national ou nationaliste, etc. Mais je pense que les coups de boutoir subis par ceux qui veulent rester dans le cadre d'un conflit national, c'est-à-dire le Fatah, le gouvernement israélien, etc., les coups de boutoir des extrêmes radicaux religieux sont une réalité de tous les jours. Et pas seulement dans le conflit israélo-palestinien, également dans le conflit libanais, également dans le conflit irakien, et bien entendu dans le reste des pays, en Égypte essentiellement. Donc, je crois que ce sont aussi des dangers qui empêchent la paix de se faire. Et malheureusement, on ne répond que par l'appareil sécuritaire à ces menaces, à ces dangers. Chaque fois que l'homme s'est emparé de Dieu ou qu'il s'en est proclamé le porte-parole, ça a été la catastrophe. On recommence aujourd'hui avec, pardonnez-moi cette petite digression, avec quand même des conséquences en France, puisqu'en France on a réussi à transposer le conflit israélo-palestinien dans nos villes, dans nos banlieues, dans nos, ce qu'on appelle communément dans nos cités, est basé non pas sur la connaissance du conflit, mais sur la connaissance, sur l'ignorance des événements qui ont abouti à ce conflit. Alors, peut-on encore croire à la paix entre Israël et Palestiniens? Oh oui, plus que jamais. Quand on voit le nombre de rendez-vous manqués, on se dit c'est pas possible. Il y a quand même un rendez-vous qui va réussir. Depuis 1922, à la conférence du Caire, le 18 et 19 mars, les délégués sionistes sont accueillis par les délégués arabes. Parmi les délégués sionistes, il y avait David Ben-Gurion et Moshe Charette. Et les délégués arabes disent, formidable, on va bâtir un État unique avec deux chambres, avec deux sénats, avec deux gouvernements locaux, mais vous allez nous apprendre la démocratie, parce que nous sortons de 400 ans d'occupation ottomane. Mais de grâce, ne faisons pas ça avec le colonisateur. Moshe Charette fonce et dit, c'est superbe, on va le faire ensemble. Ben-Gurion leur dit, mais on ne peut rien faire sans les Anglais. Premier rendez-vous manqué déjà. En mai 1933, ce qui m'a réconcilié, je ne vous le cache pas, avec l'église maronite au Liban, le patriarche maronite d'Antioche et de tout l'Orient, Pierre-Antoine Arida, écrit une lettre au directeur de l'école israélite de Beyrouth, M. Sidi, et publie une lettre pastorale en dénonçant les vexations subies par le régime nazi qui est en train de s'emparer de la chrétienté vis-à-vis des juifs en Allemagne. Mai 33, deux mois après l'arrivée de Hitler au pouvoir, aucun dirigeant européen n'a encore ouvert la bouche. Aucun dirigeant européen n'a dénoncé quoi que ce soit à cette époque-là. Qu'a-t-on retenu de l'histoire? C'est que le mufti de Jérusalem, nommé par les Ottomans, Husseini, a été un suppôt et un homme lige des nazis, et qu'il a tenu une chronique sur Radio Berlin. Mais il y a eu, à part le patriarche, beaucoup d'intellectuels arabes, je dis bien arabes, qui ont dénoncé cela. Et puis ensuite, vous connaissez tous les rendez-vous d'Oslo, de Madrid, Genève, Tabac, Camp David. Mais il y a eu des rendez-vous même à Paris. Un jour, en 69, le conseiller confident de Nasser, Mohamed Hassanin Haykal, rédacteur en chef du journal Al-Ahram, dit à une personnalité en vue de la communauté juive en France, écoute, fais arriver ce message, que Moshe Dayan lance un appel à la paix des braves. Nasser y répondra très favorablement. Très content, ce monsieur, Jean Mandelbon pour ne pas le nommer, va trouver l'ambassadeur de l'État d'Israël à Paris. Or, Israël est une démocratie, que nous le voulions ou non, c'en est une. Donc l'ambassadeur en réfère à son ministre, le ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères en réfère au Premier ministre, qui était qui ? Lévi Eshkol, un économiste, pas du tout un politicien réellement, qui se dit, c'est une excellente idée, c'est moi qui vais lancer l'appel à la paix des braves. Son appel à la paix des braves est paru dans une brève, dans la presse israélienne. Parce que c'était pas Dayan. Et que Dayan était une personnalité perçue et reconnue dans les pays arabes. Donc, des rendez-vous manqués, il y en a eu plein. Il faut bien qu'un des rendez-vous réussisse. Il y en a qui ont failli réussir. Après Oslo, il y a eu des Oslo, on a pris le plus petit dénominateur commun, on n'a pas parlé des choses qui fâchent. Mais quand Yossi Béline et ses interlocuteurs palestiniens ont présenté le général Ayalon ont présenté des plans de paix à Genève, ils ont parlé des choses qui fâchent. Et comme disait Elie, très dans le détail, très méticuleusement, ils ont dit ce qu'il fallait faire, d'une manière très claire. Par exemple, il y a même aujourd'hui des commentateurs israéliens qui ont dit « Le nouveau gouvernement israélien d'aujourd'hui aurait dû, en un mois, changer la loi électorale. » Parce que les petits partis continuent à être les arbitres de la situation en Israël, ce n'est plus possible. Changer la loi électorale et au bout d'un mois démissionner et revenir aux élections. Oui, mais il faut des hommes politiques qui ont des convictions et qui aient du courage. D'autre part, il y a 6 mois, au Cahier de l'Orient, nous avons décidé de faire enfin de parler des trains qui arrivent à l'heure et pas des trains seulement qui sont en retard. Alors j'ai dit, on va peut-être trouver 5, 6, 10, 12 associations à Jérusalem israélo-palestiniennes. Pas dans le médical, dans l'enseignement. On n'a pas encore fini au bout de 6 mois. De faire le décompte, on est déjà à 162, dans la seule ville de Jérusalem. Peut-être qu'il faut organiser le divorce entre les deux peuples. Sans doute, il faut qu'il y ait 2 États. Mais il va falloir se décider, une fois pour toutes, à revenir dans toute la région au vouloir vivre ensemble. Pour le moment, on se dirige plutôt vers la coexistence, vers la cohabitation. Les communautés sont de nouveau des citoyennetés. Ce que moi j'ai été, quand j'ai voulu inscrire ma fille, j'avais 20 ans, tu le rappelais, au début de ma vie professionnelle, fier comme Martaban, j'ai été au préposé de l'état civil. Il me dit, il te manque un papier. Je dis, mais quel papier il me manque ? Bon, le ton est monté parce qu'en bon élève des jésuites, j'étais quand même trotskiste à cet âge-là, quand même. Il faut bien le dire. Hein. Et le ton est
monté. Tu as changé depuis, quand même. Hein.
J'ai bougé intellectuellement. Et il faut bien dire aussi que, à ce moment-là, je lui dis, mais dis-moi quel papier. Il me dit, mais tu es chrétien ou musulman ? Je lui dis, mais de quoi je me mêle ? Il me dit, parce que si tu es chrétien, il me faut le certificat de baptême. Et si tu es musulman, il faut que le cadi, le juge, te signe un papier comme quoi elle est bien née. Je dis, mais attends, je viens de la voir sortir de là où elle doit sortir. Il me dit, mais non, ça ne me regarde pas. Moi, je veux le papier du cadi ou le certificat du baptême. J'étais donc, malgré moi, citoyen communautaire. On est en train d'y revenir, de plus en plus. Or, je me souviens quand même que lorsque j'étais élève au collège Notre-Dame de Jamour, et qu'il fallait prendre l'autocar. Lorsque j'entendais le muezzin appeler à la prière, je savais que j'avais encore une heure et demie à vivre, à dormir. Lorsque j'entendais les cloches sonner autour de la maison, je savais que j'avais plus qu'une demi-heure à dormir. Et lorsque je courais pour rattraper le car, l'autocar, de ramassage scolaire, et que je passais devant la synagogue et que je voyais le haram en train d'ouvrir la grille de la synagogue, mais je savais que j'avais raté l'autocar. Mais au-delà de l'anecdote, ces repères étaient des repères du vouloir vivre ensemble. Or, aujourd'hui, il n'y a plus, malheureusement, de muezzin qui appelle à la prière dans mon quartier, le quartier que j'ai habité. La synagogue est toujours debout, mais à moitié détruite. Il n'y a plus qu'une église encore debout, alors qu'il y en avait quatre. Voilà le renfermement communautaire dans lequel nous sommes en train de nous installer au Proche-Orient, au-delà du seul conflit israélo-palestinien. De grâce, si on est capable, si vous êtes capable de confiner ce conflit uniquement dans un conflit national, faites vite, parce que les intégristes œuvront vite aussi. Merci.
Merci Antoine. Je crois que la composition de lieu était parfaite. On est vraiment bien dans la région avec ce qui a été dit. Avant de redonner la parole à Eddy Barnavi, parce que je crois qu'il voulait réagir sur un point, peut-être que ton propos semble moins optimiste que celui d'Eddy Barnavi, avec bien sûr ce désir qu'un jour, et cette conviction quand même qu'un jour il y aura bien un rendez-vous qui va réussir et que le train de la paix sera bien là. Mais tu as listé un certain nombre quand même de grosses questions sur la faiblesse des gouvernements, le défaut de la représentativité, notamment dans les pays arabes, le défaut finalement de réflexion aussi politique dans beaucoup de ces pays, ce cycle infernal avec toutes les conséquences économiques, le changement d'époque pour aussi un certain nombre de pays, notamment Israël, et puis évidemment l'enfermement communautaire, le coup de boutoir des extrêmes, qui déborde bien largement la question israélo-palestinienne.
J'ajouterai juste un mot, si tu permets, sur l'Europe, puisqu'on nous sommes à quelques jours des élections européennes. L'Europe, jusqu'à maintenant, a été dans ce conflit. L'Europe bancaire, en quelque sorte, elle paye. Il faudrait quand même que les Européens se décident à devenir non seulement suivistes des Américains, mais peut-être à côté des Américains, des architectes de la sécurité. Et jusqu'à maintenant, le pas n'a jamais été franchi, hélas.
Eddy Barnavi, peut-être réaction avant de passer la parole à la salle.
Je n'ai pas grand-chose à dire, sauf que l'histoire que tu racontais, Antoine, sur cette initiative, moi je connais une version un peu différente et qui est plus spectaculaire encore, d'une occasion ratée. En fait, je pense que c'est... Mais peut-être que plusieurs ont eu cette idée, c'est l'idée de Pierre Mendès France. Je le sais, je le tiens de Jean Friedman qui me l'a raconté.
C'est Pierre Mendès France qui a demandé à Jean Friedman précisément, voilà. Mais après avoir écouté Hassan El Heikal.
Alors, il a donc cette idée que Dayan, qui à l'époque était donc une espèce de figure mythique, le héros borgne, bon, que lui, il aille, c'était bien plus intéressant que ça, qu'il aille seul, sans garde du corps, seul, au Caire, sans qu'il soit invité par les Égyptiens, et qu'il se présente au Caire et qu'il dise, moi je fais confiance au peuple égyptien et à ses dirigeants, je n'ai peur de rien, je viens vous offrir la paix des braves. C'était ça l'idée, et donc ça, lui, Mendès France, il a trouvé ça formidable, n'est-ce pas? Il y avait une dimension, cet homme qui était un homme assez froid, un politique assez... Il avait un côté romantique, un peu
visionnaire.
Il a trouvé ça formidable. Et donc, effectivement, ils en ont parlé à Moka Limon, l'admiral Limon, qui lui, il en a référé à Dayan, qui était son supérieur. Moka Limon était... L'admiral Limon était l'homme en charge des achats militaires à Paris. Ça, c'est une autre histoire, c'est l'histoire de Védette de Cherbourg, lui, mais ça, c'est une autre affaire. Et donc, il en parle à Dayan, et Dayan s'enflamme. Dayan dit, c'est formidable, je le ferai. Il en réfère à Eshkol, qui était un homme de paix. Et Eshkol dit, c'est une très bonne idée, je le ferai. C'était fichu. Alors, non seulement lui, premier ministre civil, bedonnant, ça n'avait plus aucune allure, le symbole était mort. Mais en plus, qu'est-ce qu'il fait, Eshkol? Il prend un avion militaire et il va faire sa proclamation à Sharm el-Sheikh, en territoire occupé égyptien. Évidemment, c'était terminé. Tout ça, alors, est-ce que c'était une occasion manquée? Nous ne le saurons jamais. Mais ce qui est certain, c'est que dans cette région, la dimension symbolique
est énorme.
Est énorme. Et que des gestes de ce genre auraient pu marcher. De la même manière que la poignée de main, la fameuse poignée de main entre Arafat et Rabin, était un geste symbolique. Et j'ajouterai quelque chose que vous ne savez peut-être pas. Je ne sais même pas si Antoine, qui sait tout, s'il sait ça. Arafat a eu, pendant une longue période, il a eu sa marionnette au guignol de l'info israélien. Or ça, c'était une révolution, c'était d'une extrême importance. Avoir sa marionnette au guignol de l'info israélien, ça veut dire faire partie du jeu politique israélien. Alors c'était un peu pleurnichard, et puis il y avait Peres qui était là, et puis ils passaient le temps à s'embrasser, à pleurer l'un dans les bras de l'autre. Et cette émission a fait pour l'humanisation de l'adversaire des choses absolument extraordinaires. Voilà, on était encore une fois dans la symbolique, une symbolique un peu différente. Et tout s'est effondré. Et si je regarde toute cette période qu'Antoine évoquait, tous ces rendez-vous manqués, je pense que s'il fallait hiérarchiser les raisons pour lesquelles tous ces rendez-vous ont été manqués, je mettrais en première place le manque de contrôle, de monitoring. C'est-à-dire qu'on nous a laissé seuls. Alors vous me direz, mais vous êtes adultes. Eh bien, nous ne sommes pas adultes. Non. Les peuples de cette région ne sont pas adultes au point de faire ça. Ils sont adultes pour faire la guerre. Ça, tout le monde fait faire la guerre. La guerre unit, la paix divise. Donc, pour avoir un gouvernement capable de faire ce qu'il faut, il faut renoncer à ce sésame de l'unité à tout prix. Il faut accepter de diviser. Et vous savez quoi? Il faut accepter le risque de guerre civile. Il faut accepter le risque de guerre civile, de noyau de guerre civile. Et ça, personne n'a été fichu de le faire. Si on avait eu véritablement un honnête courtier, et si cet honnête courtier avait dit voilà quel est le droit, et voilà ce que la politique et le droit vous commandent de faire, je pense qu'on aurait pu saisir un de ces moments, on l'aurait fait, d'autant plus que, comme je l'ai dit, il y a eu le travail de l'éducation des opinions publiques qui est allé très très loin. Voilà la première réaction. Je ne sais pas si ça répond à quelques questions que ce soit de votre part.
J'aurais envie de continuer par une question. C'est justement, et puis on va donner la parole à la salle, c'est justement sur la dimension symbolique qui est quand même extrêmement importante.
Mais on le voit avec Obama aujourd'hui.
Alors, ben justement,
voilà, c'est un maître de symboles.
Attends, oui. Je pose ma question, Antoine. Est-ce que Israël, on est d'accord, a besoin de sécurité et personne ne conteste cette sécurité. On peut se demander si, et notamment toutes ces dernières années avec le développement des colonisations, si finalement Israël a fait la bonne analyse stratégique pour sa sécurité. Est-ce que sa politique depuis 20 ans n'est pas celle qui finalement contribue à avoir autre chose que la sécurité? Alors qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, quel geste symbolique permettrait de sortir un peu de cet enfermement, relancer la confiance qui manque totalement et permettrait ainsi que de nouveau il y ait un embryon de parole possible?
Le problème des implantations n'est pas un problème de sécurité, quoi qu'on en dise, c'est un problème idéologique. C'est pas pour la sécurité qu'on s'est mis là-bas, bien que le discours était sécuritaire, et bien que pour certains, comme Sharon, il y ait eu une dimension sécuritaire. Sharon n'est pas un grand idéologue, n'est pas très religieux. Pour lui, il était essentiel de garder, on n'a pas de carte ici, mais vous voyez un peu la carte, la crête des collines de Samarie, pour lui c'était très important pour des raisons sécuritaires. Donc, implanter des gens, ça avait Mais très vite, la plupart des gens ont compris que c'était du pipeau. Le véritable moteur de la colonisation des terres palestiniennes. Il faudrait commencer autrement. L'histoire a voulu que l'implantation sioniste en Palestine se fasse non pas dans le cœur biblique du pays, en Judée et Samarie, ce que nous appelons la Judée et la Samarie, c'est en Cisjordanie, mais sur la côte, en pays de Philistins. C'est-à-dire que dans l'essentiel des lieux saints et des lieux qui parlent, dont l'évocation est forte dans le tréfonds de l'inconscient collectif juif et israélien, est resté sous administration jordanienne. Pourquoi? Pour des raisons d'achat de terres, des raisons de densité de population arabe. Je vous passe les détails. Alors, lorsque ces territoires ont été conquis en 67, ça a été une espèce de formidable choc psychologique, n'est-ce pas? Nous sommes revenus à Bethel, à Siloé, à Bethléem, à Jérusalem,
à Hébron,
tombeau des patriarches. Alors, pour tous les Israéliens, ça a été un choc psychologique, et je l'avoue, moi qui étais à ce moment-là un jeune militaire, ça a été pour moi aussi. J'ai vite fait de me réveiller, mais d'autres sont restés anesthésiés. Et il y a eu là un phénomène, cette fois sociologique, si vous voulez, ou socioculturel. C'est que là, l'essentiel des forces du sionisme classique, originel, laïque, révolutionnaire, tous ceux qui voulaient le salut du peuple par la terre, s'est affaissé, puisqu'il n'y avait plus rien de toute façon. Ça c'était fait. Et c'est à ce moment-là que sont montés en puissance tous ceux qui voulaient le salut de la terre par le peuple, c'est-à-dire le néo-sionisme d'essence messianique. C'est comme ça que ça a commencé. C'est le choc de la conquête de ces territoires. Et donc, tout de suite, ces gens-là ont dit, il faut coloniser cette terre. Et la majorité laïque n'a pas osé s'y opposer parce qu'elle n'avait plus d'armature idéologique pour le faire. Et la colonisation a été faite de cette manière par une minorité révolutionnaire et décidée qui, elle, croyait à ce qu'elle faisait contre une masse amorphe qui ne croyait plus à rien du tout. Voilà ce qui s'est passé, en fait. Et donc, ce n'est pas la sécurité qui a... Au contraire, la colonisation a toujours joué contre l'impératif sécuritaire d'Israël. Ça, c'est un fait. N'importe quel militaire honnête vous le dira. La plupart des généraux, d'ailleurs, sont d'accord. D'ailleurs, lorsqu'il y a eu l'attaque surprise égyptienne, égypto-syrienne, en octobre 73, la première chose qu'on a faite, c'est évacuer les colonies du Golan. En quoi ça a servi à la sécurité? Et donc, vous me demandez quel geste symbolique il faudrait faire. En fait, le seul à pouvoir faire un geste symbolique fort, mais ce n'est pas dans la nature du régime syrien, c'est Bachar Assad. Si Assad, fils, père, avait fait ce qu'a osé faire Sadat en 78, lorsqu'il est venu à Jérusalem, cela fait longtemps que le Golan serait aujourd'hui syrien qui aurait une paix avec la Syrie. Mais ça, ce n'est pas dans sa nature. Je ne dis pas qu'il ne faut pas descendre du Golan et qu'il ne faut pas faire quand même la paix avec la Syrie. Vous me demandez, dans une région friande de symboles, le geste de Sadat a été un coup de tonnerre. Un tremblement de terre. Alors cet homme avait le panache, le souffle, la vision historique, le courage physique, d'ailleurs il a payé cher, pour faire ça. Ça, voilà. Mais, Sadat, comme d'autres types de ce genre, ils ne sont pas monnaie courante, ni dans la région, ni ailleurs, et donc c'est resté sans lendemain. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que les Américains, qui ont fait beaucoup, pour assurer, parce que c'était pas fait, il a fallu quand même des efforts, c'est à ce moment-là qu'il aurait fallu insister pour aller plus loin. Ils l'ont pas fait. Et donc tout s'est affaissé de nouveau. On est revenu à la routine des petits pas, des négociations qui n'aboutissaient pas, de cette espèce de danse de sengi diplomatique dont finalement l'objectif, la négociation elle-même. Vous savez, quand on dit processus de paix, c'est extraordinaire à quel point ce terme a été galvaudé. En fait, c'est un processus, ça évoque une ligne, n'est-ce pas? On part de quelque part, on arrive quelque part. Imaginez un processus qui est en cercle. Et tout le monde tourne autour et personne ne sait. Alors que, sur le terrain, la situation évolue. Quand on parle de sur place, seuls les diplomates et les politiques font de sur place. Sur le terrain, la situation, elle, évolue. C'est-à-dire que ce que nous ne ferons pas aujourd'hui, la colonisation, la montée en force des fous de Dieu feront que nous ne pourrons plus le faire. C'est-à-dire que quand je dis que la paix est inéluctable, je vais un peu vite en besogne. Elle est inéluctable si on fait aujourd'hui ce que nous devons faire. Si nous attendons encore 5 ans, encore 6 ans, encore 7 ans,
on va s'installer.
Il n'y aura plus que négocier. C'est-à-dire que le scénario d'un État binational, au sens le plus épouvantable du terme, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, un État binational dans cette région, c'est une recette pour un désastre. Ça, c'est quelque chose qui nous pend au nez. Un État binational là-bas, ça ne peut vouloir dire que deux choses, ou l'apartheid, ou la guerre civile, probablement les deux. Et donc, c'est maintenant qu'il faut faire vite, et c'est pour ça que je disais que mon dernier espoir, vraiment, pour que cela aboutisse, c'est maintenant. Si j'étais pieux, je commencerais tous les jours par une prière pour le salut d'Obama, pour que Dieu le tienne en vie, le maintienne en vie, et qu'il lui donne le courage de faire enfin ce qu'il faut pour qu'il soit enfin un vrai ami d'Israël. Vous savez ce que nous appelons ami d'Israël à l'Israël? C'était Bush. Bush était un ami d'Israël. C'est un homme qui a travaillé avec beaucoup de constance au malheur de ce pays.
Antoine, avant qu'on pose la parole.
Mais moi, j'ai envie de rebondir sur Obama, tout en disant qu'Obama ne peut en aucun cas faire fi des intérêts américains dans la région. Et il a compris la charge symbolique de cette région. Il commence à tourner à Riyad pour assurer déjà les pétroliers américains. C'est quand même, l'Arabie Saoudite est importante sur le plan pétrolier. Mais il n'y reste pas. C'est en Égypte qu'il va prononcer son discours aux musulmans de la planète. Il a consacré l'Égypte comme étant le nouveau leadership du sunnisme dans le monde arabe. Alors que jusque-là, ce rôle était capté par l'Arabie Saoudite et les Saoudiens. Mais il fait les deux pays en même temps pour envoyer un message aux Iraniens en face. Car on assiste depuis quelques années, hélas, à une diabolisation de l'Iran qui va nous amener probablement dans les murs, comme on a assisté à une diabolisation de Nasser dans les années 50, qui nous a amené dans le mur. Car n'oublions pas que si l'intégrisme musulman aujourd'hui est aussi vivace dans le monde, c'est grâce à l'alliance qu'a contractée l'Occident, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, avec non pas le républicain Nasser, mais ceux qui ont une lecture littéraliste, une lecture rétrograde et archaïque de l'islam, qui est l'Arabie Saoudite. Cette alliance qui date de 1957. Et dans des circonstances on prendrait beaucoup de temps pour les analyser. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, Obama, prenant en compte cette charge symbolique, est en train, pardonnez-moi le terme un peu familier, de réussir son coup. Complètement. Il est en train de réussir son coup, en tout cas, dans l'espace arabe. Et peut-être, comme dit Élie très justement, que Dieu le garde en vie, et parce que aujourd'hui, il est quand même menacé fortement de par ses positions dans la région.
Alors, on va, il n'est que Très tard déjà, il faut qu'on ne tarde pas à passer la parole, à passer le micro. Il y a aussi autant de monde dans une autre salle, la salle 4. Alors il y aura sans doute certaines personnes qui viendront par là, qui arriveront aussi pour poser des questions. Mais on va commencer par ici. Monsieur.
Oui, vous avez parlé du rôle des États-Unis.
Parlez bien fort.
Oui, vous avez parlé du rôle des États-Unis, de l'Europe. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu sur le rôle de l'Iran? Justement, vous l'avez un petit peu évoqué à l'instant. Et pourquoi est-ce que l'Iran se déchaîne, en tout cas c'est l'impression qu'on a, se déchaîne contre Israël, alors que historiquement les Perses étaient plutôt les amis des Juifs?
Merci. On va prendre deux ou trois autres questions. Une question au milieu, en haut. Voilà. Il faudra faire passer le micro.
Donner la parole aux femmes aussi.
Hein. Oui, on donnera la parole aux femmes, oui. Rassure-toi, Antoine, je te reconnais bien là.
Je te reconnais bien. Non, la moitié de l'humanité. Arrête.
Voilà.
La meilleure moitié.
Alors, on écoute la question. Merci.
Je suis assez choqué que ce ne soit pas un Palestinien qui réponde à Ali Barnavi. Je pense que le débat est très largement faussé. J'ai jamais.
Qu'est-ce que vous pensez? Excusez-moi, je pense.
Je suis choqué que ce soit pas un Palestinien qui réponde à Ali Barnavi. Je pense que le débat est très largement faussé à cause de ça. Je vais te lui parler de l'apartheid pour la première fois il y a à peu près 5 minutes, comme une éventualité future, mais il existe déjà en Cisjordanie l'apartheid. Et Gaza, c'est l'apartheid aussi, c'est un monde à part, c'est l'apartheid.
Oui.
Voilà, merci. On répondra sur ce point. Une autre remarque? Oui, alors tout au fond, voilà, et puis on en restera là pour l'instant.
De la même façon qu'il fallait abattre le mur de Berlin, ne faut-il pas abattre les murs à Jérusalem?
Ne faut-il pas abattre les murs à Jérusalem? Antoine, peut-être sur l'Iran, pour commencer.
Non, je voudrais répondre à monsieur tout d'abord. Je suis confus de ne pas être palestinien. Je ne sais pas que c'était une tare aujourd'hui en France que de ne pas être palestinien. Laissez-moi répondre, je vais laisser parler, parce que ce que vous dites est inadmissible. Et je dis bien inadmissible, monsieur. Et je vais l'expliquer pourquoi, si vous le permettez. Tout d'abord, si vous voulez des arguments pro-palestiniens, j'ai ça en magasin. Mais je pensais que j'étais là, que nous étions là, pour dresser des passerelles et non pas de verser de l'huile sur le feu, parce que ça, c'est très facile. C'est très simple. Je pourrais commencer par reprocher aux Palestiniens d'avoir mis le Liban à feu et à sang. Je pourrais reprocher d'avoir mis que les Palestiniens sont en train aujourd'hui, dans les 11 camps palestiniens, de s'armer de nouveau, et notamment les groupes intégristes palestiniens, ceux qui ont fait le camp de Nahr el-Bared il y a quelques mois. Mais ça ne m'intéresse pas, parce que la cause palestinienne, j'y crois encore. Et j'y crois toujours. Oui, c'est vrai. J'ai parlé des destins fermés des Palestiniens, non seulement à Gaza, qui est une prison à ciel ouvert, mais également en Cisjordanie. Je crois sincèrement que le destin du Palestinien aujourd'hui, surtout avec les murs autour des territoires, est devenu un destin totalement fermé, totalement cloisonné, qui ne donne plus de choix autres, d'alternatives, que de partir. Parce que il y a une situation, mais je l'ai dit, monsieur, il y a une situation d'occupation, et il y a une situation d'occupation militaire, premièrement. Je ne l'ai pas dit.
Bon, voilà, on écoute, sinon il n'y aura pas de débat.
Écoutez,
voilà.
Je l'ai dit, puisque j'ai parlé de ce destin fermé en raison de l'occupation. D'autre part, il y a d'autres raisons pour que le destin soit fermé. Si aujourd'hui nous avons vu l'érection du Hamas en gouvernement, c'est parce qu'il y a eu la corruption, la gabegie et l'attitude un peu arrogante du gouvernement palestinien du Fatah avant 2006, date des élections qui ont amené le Hamas au pouvoir. Sachez que, vous devez le savoir sans doute, que même des chrétiens de Bethléem, de Jérusalem, ont voté pour le Hamas parce qu'ils en avaient ras-le-bol de la gabegie et de la corruption qu'il y avait dans les rangs du Fatah. Mais néanmoins, Tout le monde sait et tout le monde lit tous les jours que les territoires sont occupés, que c'est une colonisation, que c'est en même temps Gaza est une prison à ciel ouvert, et en même temps, tout cela donne en quelque sorte la bénédiction pour qu'il y ait des organisations armées qui, elles aussi, se transforment vis-à-vis de la population civile à l'intérieur de Gaza et à l'intérieur des territoires, ce qu'on constate quand on y va, vis-à-vis des populations civiles, une sorte de milice, disons le terme, de milice qui, au nom de la résistance, font subir à la population ce qu'aucune population de la région ne devrait subir, en plus de l'occupation. Donc voilà. Et encore une fois, je suis confus de ne pas être palestinien.
Pardon. Alors, je voudrais juste dire Je voudrais juste dire un petit mot sur ce point, parce que s'il y a un seul responsable des invitations ce soir, c'est moi. Donc c'est peut-être à moi de répondre. C'est vrai que mon idée, l'idée du département d'éthique, ce n'est pas de vouloir à tout prix faire une soirée où il y aurait les représentants des deux camps. D'abord, je ne suis pas sûr que, par exemple, Monsieur Barnavi, tous les Israéliens se retrouvent complètement dans ces positions. Voilà. Alors, il y aurait aussi, il faudrait un Palestinien qui soit, qui soit plutôt Hamas, qui soit plutôt Fatah, je ne sais. On aurait pu très bien imaginer, et je n'exclus pas de le faire, pour d'autres conférences, par exemple, qu'Elias Sambar ou Leïla Chaïd soient là. Il n'y a pas de problème de ce côté-là, vraiment, ne mettez pas un procès d'intention là-dessus. Ce qui m'apparaissait important, c'est d'avoir des personnes qui puissent apporter des éléments de réflexion, avec lesquels on peut être d'accord ou pas d'accord, et qui connaissent la situation politique de cette région. Dans 6 mois, dans 9 mois, on organisera sans doute d'autres choses sur la question au Proche-Orient, avec d'autres invités qui seront diversement situés, qui ne plairont peut-être pas à tout le monde, mais qui m'apparaissent des personnes, à un moment donné, qui peuvent apporter des éléments, qui peuvent être entendus par tous, et qui ont surtout envie de se parler. Voilà ce qui a prévalu dans le choix des invités. Je ne le regrette pas, mais c'est quelque chose qui continuera avec d'autres rencontres, où il y aura d'autres personnes, et j'espère que vous y serez.
Voilà. Je voudrais juste poursuivre sur l'Iran. Vous savez, l'Iran, les Iraniens vous disent, nous sommes Perses, dans un monde, à la fois dans une mer, d'Arabes d'un côté, de Pachtoun, de Baloutch et de Tadjik et d'Ouzbek de l'autre. Nous sommes chiites, 9% des musulmans dans le monde, dans un océan de sunnites. C'est nous qui avons peur, parce que sur nos frontières, il y a le Pakistan et l'Afghanistan. Et si les talibans reviennent au pouvoir en Afghanistan et prennent le pouvoir au Pakistan, le Pakistan a la bombe, et nous avons la trouille. Personne ne les empêchera de déferler sur nos territoires. Contrairement à ce qu'on pense, et je vous invite à m'accompagner, comme tous les mois de mai, j'amène 120 lecteurs des Cahiers de l'Orient en Iran, ce qui est quasiment choquant, la population est anti-arabe et pro-israélienne. La population se sent comme les Israéliens assiégés. Ils ont cette perception-là. Néanmoins, il y a aussi ce côté qu'ils sont complètement coupés par de la classe politique. La classe politique a l'air de vivre dans une sorte de cabane fermée entre eux, les mollahs, l'opposition, et un pouvoir éclaté, car M. Ahmadinejad, qui a tenu jusqu'au 4 novembre un langage, un vocabulaire antisémite, d'exclusive contre Israël, etc., aujourd'hui n'a plus ce même langage-là. En plus, il n'est que le numéro 5 du régime. Le numéro 1 du régime étant le guide de la révolution, de l'État, c'est-à-dire l'ayatollah Khamenei. Il faut savoir aussi que les chiites, quand ils négocient, les Perses, quand ils négocient avec les Européens, ils leur disent qui viendrait nous défendre à ce moment-là. Les Européens disent nous, c'est-à-dire les Anglais, les Français et les Allemands. On oublie que les Perses sont les inventeurs du jeu d'échecs. Et ils leur disent, mais vous n'êtes pas crédibles parce que Français, Anglais et Allemands ont des intérêts divergents au Moyen-Orient et en Iran. Et en plus, ils ont face à eux des ministres d'affaires étrangères qui ne connaissent pas la région. Les Anglais, par exemple, sont personnes à non grata en Iran. Parce que les Perses n'ont pas oublié que les Russes et les Anglais ont essayé de dépecer l'Empire au début du siècle. Et puis les Perses, pour la première fois, depuis le Xe siècle, les chiites, pardon, ont poussé les frontières de l'Empire dans l'espace arabe. Grâce à quoi? Grâce au fait que le verrou de Bagdad a sauté. Et ce verrou a sauté grâce à qui? Aux Américains, en 2003. Et puis, n'oubliez pas une chose, vis-à-vis d'Israël. En 1982, en pleine guerre Irak-Iran, septembre 82 et mars 83, alors que tous les pays de la planète aidaient Saddam Hussein contre les Mollahs, un seul pays a livré des pièces de rechange et des munitions à l'Iran. C'était Israël. Vous me direz, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Mais cette relation ne date pas de 82-83. Entre les Iraniens et les Israéliens, entre les Iraniens et, j'allais dire, les Perses et les Juifs, c'est une très longue histoire qui a été souvent une histoire d'alliance. Et aujourd'hui, si vous regardez les intérêts stratégiques des Américains dans la région, vous verrez qu'ils correspondent à ceux des trois pays dont aucun n'est arabe, Iran, Israël, Turquie. Ce qui laisse présager, en tout cas déjà d'après l'attitude de M. Obama, que le triptyque de l'alliance stratégique américaine dans la région, qui permettrait aux Américains de gérer cette région loin de 10 000 kilomètres, et qui permettrait surtout aux Américains de retirer leurs 144 000 soldats rapidement d'Irak, c'est cette alliance stratégique Iran, Turquie, Israël.
Alors, il y a une question qui est restée en suspens, à laquelle M. Barnavi va peut-être essayer de répondre, sur justement le côté symbolique. Ne faut-il pas abattre le mur, qui serait déjà le mur autour donc de Jérusalem et qui entoure les territoires palestiniens? Il y a des questions qui sont arrivées de l'autre salle, qui reviennent sur le rôle de l'opinion publique. Vous avez dit que les opinions publiques, que ce soit israéliennes ou palestiniennes, étaient favorables à la paix. Alors, il y a deux questions. Comment pouvez-vous assurer que les opinions publiques sont pacifistes? Les médias nous montrent des Palestiniens irréductibles. Et puis l'autre question, est-il si exact que l'opinion publique israélienne soit aujourd'hui favorable à la paix? Le résultat des dernières élections semble, hélas, indiquer le contraire.
Je n'ai pas dit que les opinions étaient pacifistes. Je dis qu'elles étaient favorables à la paix, ce qui n'est pas du tout pareil. Comment je le sais, mais par les études d'opinion, tout bêtement. C'est-à-dire, et tous les sondages, et de manière récurrente et têtue, disent tous la même chose. Il y a une majorité stable, ferme, en Israël pour une paix négociée avec les Palestiniens et la rétrocession des territoires. Et ça n'a pas bougé. Enfin, il y a des petites variations, mais tenez, la veille du départ de Benjamin Netanyahu pour Washington, entre parenthèses, une caricature formidable dans le New York Times, où on voit Netanyahu qui arrive à la Maison Blanche, Obama sort, lui tend la main, et on voit Netanyahu penser, après le pape, le Messie. Et c'est vrai que c'est vrai que nous chargeons trop les épaules de cet homme-là, Et donc, à la veille du départ de Netanyahu pour la Maison Blanche, un sondage montrait que 57% d'Israéliens étaient favorables à ce que Netanyahu se range de l'opinion du président américain sur la question de deux États. 57%. Alors, vous me direz, n'est-ce pas contradictoire à ce moment-là? Pourquoi vote-t-on pour un gouvernement pareil? Mais si le vote était une affaire de raison et de cohérence idéologique, ça se saurait. Pourquoi ils ont voté? Parce que l'offre politique était là. Après l'échec d'Olmert et de son équipe, ils ont pris ce qu'il y avait. Et ce qu'il y avait, c'était Netanyahu et son équipe à lui. Vous savez, même à Gaza, à Gaza, les Gazaouis ont voté majoritairement islamistes, Hamas. Pensez-vous vraiment qu'ils sont devenus tous islamistes? On vote ce qu'il y a, et ce qu'il y a n'est pas terrible toujours. On change parce qu'on en a assez avec ce qu'on a vu. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément pour tout ce que ces gens-là vous proposent. Donc voilà comment je sais que l'opinion israélienne est en faveur d'un compromis historique avec les Palestiniens. Et de la même manière, ce qui est intéressant chez les Palestiniens, on dispose de sondages très fiable, il y a d'excellentes études de sondage. On sait que de manière récurrente, malgré tout, il y a une majorité de Palestiniens qui sont pour la paix. C'est pour ça que si le Hamas était sûr de gagner un référendum sur cette question, il ne dirait pas qu'il s'y oppose. C'est tout de même une attitude intéressante. Alors, la question du mur. Vous savez, tout est plus compliqué que ce qu'on voit d'ici. Cette histoire de mur, d'abord, comparer le mur de séparation, de la clôture de séparation, de sécurité, comme on l'appelle en Israël, au mur de Berlin n'a pas de sens. Pour une simple raison, c'est que le mur de Berlin était là pour empêcher les gens de sortir de chez eux, tandis que la clôture de séparation est là pour empêcher les gens d'entrer chez vous. C'est déjà une énorme différence. Je voudrais tout de même rappeler, ou vous le dire si vous ne le saviez pas, que ce mur est une idée de gauche. En fait, c'est une idée des travaillistes pour empêcher le phénomène d'attentats suicides, qui a tout de même fait des centaines de victimes dans les rues des villes d'Israël. Et donc, on s'est dit, on va bâtir les murs, et comme ça, ils ne pourront pas rentrer. Derrière cette idée, à gauche, il y avait une autre politique, mais qu'on ne disait pas. Le mur sera construit le long de la ligne verte, c'est-à-dire la ligne de démarcation entre Israël souverain et le territoire palestinien, et comme ça il va rééduquer les Israéliens à l'existence de la ligne, et ce sera en fin de compte la frontière. De manière tout à fait significative, la droite, Sharon à sa tête, n'en voulait pas. Il ne voulait pas de ce mur. Pourquoi? Parce qu'il redessinait, il recoupait la Palestine historique que eux voyaient comme toute juive. Et donc ils étaient contre. Il a fini par s'y résoudre sous la pression de l'opinion publique. Il a commencé à construire le mur, mais à ce moment-là, il s'en est servi lui aussi comme outil politique, en mordant dans les territoires palestiniens. Donc le problème du mur n'est pas le mur lui-même. C'est moche, ce mur, mais il se comprend. Le problème, c'est que l'opinion internationale aurait pu comprendre qu'on bâtisse un mur chez soi pour se protéger. Elle comprend moins qu'on bâtisse un mur chez le voisin. Et le problème est là. En tout cas, je puis vous assurer, ce mur-là n'est pas là pour durer indéfiniment. Il est là pour être démantelé un jour, parce que évidemment, il est provisoire le temps qu'il y ait un accord de paix. À ce moment-là, bien entendu, on le démolira tel qu'il est. Évidemment, c'est un problème majeur, surtout pour les Palestiniens qui se voient souvent séparés de leur village. En fait, la vie à l'ombre de ce mur est épouvantable, et la Haute Cour de Justice a plusieurs fois changé le... Et d'ailleurs, on n'arrive pas à le finir, ce sacré mur, parce qu'il y a un énorme problème juridique, parce que les Palestiniens se plaignent que chaque fois il y a des débats à la Haute Cour de Justice, que souvent le tracé a été modifié, et qu'on n'arrive pas, pour ces raisons, on n'arrive pas à le finir. Laissez-moi vous dire un mot sur l'Iran. L'Iran, c'est, oui, effectivement, c'est un problème extraordinairement intéressant, parce que l'opinion publique iranienne, nous on a une radio en langue persane à la voix d'Israël à Jérusalem, on a des milliers d'appels de citoyens iraniens, et tous ceux qui viennent, enfin ça, Antoine le sait mieux que moi, mais tous ceux qui viennent, les touristes et les journalistes disent que l'opinion est profondément... Le pays le plus pro-américain, le plus pro-israélien au Moyen-Orient, c'est l'Iran. C'est comme ça. Alors il y a la classe, il y a les ayatollahs. Pourquoi sont-ils aussi rabiquement anti-israéliens? Eh bien, pour des raisons idéologiques et religieuses, et pour des raisons de propagande. C'est-à-dire que dans la course entre chiites et sunnites, pour gagner, pense-t-il, le cœur des masses musulmanes, il faut tenir ce langage. Et à la longue, on s'y habitue. Et ce qui était pour certains un simple stratagème de propagande est devenu un article de foi. C'est comme ça que je vois les choses. Alors comment cette affaire-là va se terminer? Je n'en sais trop rien, mais l'Iran, la bombe iranienne, est un énorme problème pour nous. Un énorme problème.
On va reprendre, on avance dans le temps, et on va reprendre peut-être deux questions. J'en vois une devant. Peut-être que le micro va arriver jusque là. Il arrive le micro. Voilà, il arrive. Et puis donc une question, si possible, brève.
Si vous me permettez, comme tout le monde ici présent, supposons le problème résolu. C'est-à-dire la guerre est finie.
Parlez plus dans le micro. Parlez plus près du micro. S'il vous plaît, parlez plus près du micro. Parlez plus près du micro.
Supposons le problème
voilà.
Résolu. Et que, de ce fait, la guerre est finie, les mères de famille n'ont plus peur d'envoyer leurs enfants à l'école, etc. Voilà deux États qui vont être connexes, dans lesquels le développement économique est tout à fait différent, l'État économique est tout à fait différent. Peut-on arriver à résoudre le problème sans que des perspectives économiques à l'échelle d'une demi-génération, par exemple, soient telles qu'elles offrent aux Palestiniens non seulement un territoire, mais également des perspectives de devenir qui ne soient pas trop lointaines de celles de son voisin à côté israélien? Ça paraît être un problème fondamental.
Et on va prendre une seconde peut-être réaction. Voilà, ça va être tout au fond là-bas sur la gauche.
Bonsoir à tous. Bruno Marot, je suis président d'un réseau universitaire qui s'appelle Faculty for Israeli-Palestinian Peace.
Parlez bien fort dans le micro.
Bruno Marot, je suis président d'un réseau universitaire qui s'appelle Faculty for Israeli-Palestinian Peace, qui est un réseau universitaire international qui rassemble des universitaires israéliens, palestiniens et internationaux pour promouvoir une paix juste et un dialogue au Proche-Orient. Et je voudrais saluer déjà la démarche un peu d'apaisement et la démarche de dépassionner le débat qui est la vôtre ce soir, et c'est un peu la nôtre aussi. Et par rapport à ça, je voudrais souligner quelques points et donc interroger nos deux intervenants, M. Barnaby et Sfer, sur l'approche régionale qu'ils ont déjà commencé à évoquer et qui est reprise souvent, on dit, par l'initiative de paix arabe, et en particulier sur les quatre points qui sont souvent évoqués comme un peu les quatre points d'achoppement actuellement dans la négociation, c'est-à-dire sur la question du statut de Jérusalem, sur la question des réfugiés et de la reconnaissance du droit au retour, la question des frontières. On a commencé à parler du mur et M. Barnaby l'a dit assez justement, c'est vrai que c'est pas juste un mur qui est dit de sécurité, c'est aussi un mur qui annexe 15% de la Cisjordanie. Et aussi, enfin, la question des réfugiés, je l'ai évoqué. Donc, je voulais un peu avoir votre avis là-dessus pour essayer de un peu concentrer la question sur, voilà, par rapport à la
thématique
du débat, sur quelles sont les perspectives.
Merci. 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 Très bonne question.
Il y a 5 dossiers qui sont des dossiers d'achoppement. Sur les 5 dossiers, il y a 4 de réglés. Le premier, c'est bien entendu le pourcentage de territoire en Cisjordanie, qui est aussi entre 92 et 98% des territoires cisjordaniens occupés de Gaza à rendre aux Palestiniens. Le deuxième, c'est le statut de l'État. Quel État ce serait? Ce serait un État d'apartheid, comme on disait? Est-ce que ce serait un État qui pourrait battre monnaie? Est-ce que c'est un État qui pourrait émettre des passeports, avoir un aéroport, un port, etc.? Une armée, une police? Autrement dit, est-ce que cet État palestinien en gestation pourrait avoir les pouvoirs régaliens d'un État? Ensuite, on l'a dit, c'est les colonies, ou dans le vocabulaire israélien, les implantations. Il faut savoir quand même que 80% des colons, aujourd'hui, sont regroupés dans 20% des colonies. Donc, si vous démantelez demain 20% des colonies, vous avez démantelé 80% des colons. Et donc, là aussi, les accords avec quelques échanges de territoires pour la sécurité, comme il y en a eu entre la Jordanie et Israël, c'est, l'accord est quasiment acquis. Et enfin, vous avez Jérusalem. Alors, on a imaginé, à Camp David, en 2000, du temps de Monsieur Clinton, une solution à laquelle ne pouvait répondre ni Arafat, ni Barak. Barak pour des raisons de consultation de la Knesset, du Parlement, et Arafat qui devait attendre, parce que c'était sa dernière carte, que Barak donne sa réponse auparavant. Concernant Jérusalem, le quartier juif et catholique aurait été sous souveraineté israélienne, et le quartier musulman, pardon, juif et arménien, et le quartier de la vieille ville musulman et catholique aurait été sous administration palestinienne. Les mots ont leur sens diplomatique qui permet d'obtenir des compromis. On parle de la vieille ville. On ne parle pas de toute la ville de Jérusalem. On parle de ces quelques hectares qui constituent la vieille ville, mais qui ont une charge symbolique énorme. Le seul problème qui reste encore une pierre d'achoppement, c'est le retour des réfugiés. Dans la mesure où, pour les Israéliens, il s'agit des réfugiés de 67, donc ils retournent en Cisjordanie, chez eux, et pour les Palestiniens, c'est le retour des réfugiés de 48 chez eux, c'est-à-dire la Galilée, essentiellement, en grande partie. Et ça, c'est la pierre d'achoppement entre les deux, et c'est sur ce dossier-là que les négociations sont actuellement menées essentiellement par les deux services de sécurité qui n'ont jamais, en aucun cas, cessé de se parler et de continuer leur travail de négociation. Il n'en reste pas moins que c'est vrai que sur ces cinq, aucune de ces solutions ne satisfait pleinement tout le monde. Mais c'est ce qu'on appelle des compromis. Ou on arrête l'hémorragie, ou alors on continue la guerre.
J'ajoute que à Genève, on a trouvé un modèle de règlement, y compris de la question des réfugiés. Donc ça, vraiment, c'est resté un problème de volonté politique.
Là. Oui, bien entendu.
On va terminer avec votre intervention.
Je vous donne une réponse, monsieur, sur la... Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense que ce qu'Antoine a dit, c'est tout à fait ça. Je voudrais juste dire un mot sur ces démarches d'apaisement que vous avez. Là encore, il faut dire très, très fortement, et c'est un témoignage personnel, il est pour moi infiniment plus facile de parler avec des Palestiniens qu'avec certains de leurs amis européens. Nous avons le même langage, nous nous comprenons très bien, et ça marche. Parfois, je me trouve devant des amis européens des Palestiniens avec qui je n'ai pas de langage commun. Et si moi, je n'ai pas de langage commun, je me demande qui peut avoir. On jette des mots qui n'ont pas de sens, on plaque des réalités qui sont complètement étrangères. Et je vous dis ça parce que c'est important pour nous, pour Palestiniens et pour Israéliens. Il faut savoir qu'il y a une manière de soutenir les partis qui est préjudiciable à la partie même que l'on veut soutenir. Il y a des juifs qui défendent Israël d'une manière que je trouve préjudiciable à Israël. Et il y a beaucoup de gens qui soutiennent les Palestiniens d'une manière qui n'a aucun sens et qui n'a aucun rapport à la réalité. Et ça déresponsabilise les partis, ça les rend incapables d'arriver à un accord. Il faut avoir assez de générosité d'esprit et de cœur pour admettre qu'on n'est pas dans le noir et blanc, qu'on est dans le gris et gris. Il faut pouvoir être dans un même souffle pour les uns et pour les autres. Si moi je peux, tout le monde peut. L'initiative des pays arabes. Quelqu'un a posé la question. Et elle est en train de faire surface. C'est-à-dire l'un des gros problèmes que j'ai avec mon gouvernement en 2002, c'est que cette initiative de paix arabe est passée comme si elle n'avait jamais existé. J'ai grandi dans un pays où on disait, c'était l'idéologie courante, que le moindre chef d'État arabe admette de la manière la plus molle qu'il soit, qu'il est prêt à s'asseoir quelque part avec Israël, et nous y verrons, et nous saisirons aussitôt la main tendue. Le monde arabe tout entier, soutenu par l'organisation, par l'OCI, par l'organisation musulmane,
la conférence
islamique mondiale, accepte de reconnaître Israël, non pas de reconnaître, de normaliser les relations avec Israël, moyennant la rétrocession des territoires et le règlement des questions en suspens, et rien ne se passe. Ça, c'est quelque chose de pratiquement incompréhensible. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est que l'initiative de Pera va être mise en scène. Je ne dis pas qu'elle était parfaite. C'est d'ailleurs pas un accord. C'est un cadre très large. Mais il fallait se saisir de ce cadre, et j'espère que c'est ce qui va se passer maintenant. Un mot sur l'économie, puisque, monsieur, vous avez parfaitement raison. L'un des problèmes que nous avons, c'est que nous avons face à face deux entités, l'une du premier monde et l'autre du tiers monde. C'est extrêmement difficile à régler. Il y a une disparité de développement énorme. Alors, si cet État palestinien, lorsque cet État palestinien verra enfin le jour, et je pense qu'il est nécessaire, parce que nous avons besoin d'une paix sèche, nous avons besoin d'une séparation, nous avons besoin que chacun se retrouve chez soi, sans le poids oppressant de l'autre. Il faut que nous enlevions notre botte de la nuque des Palestiniens. Il faut que les Palestiniens nous libèrent de la peur que nous avons d'eux. Nous sommes des sociétés qui ont peur l'une de l'autre. Donc on a besoin de ce divorce pour une période. Cela étant dit, et Antoine y a fait allusion dès le début de son intervention. Si vous regardez une carte, il est évident que il n'y a pas de place dans cette région pour 3 ou 4 États totalement souverains. Ça n'a pas de sens. Et que l'avenir de cette région est dans une sorte de confédération, dans une sorte de marché commun, dans quelque chose qui permette le jeu de vases communicants de fonctionner, et que la société palestinienne, où il y a tout de même, ils ont ce formidable atout d'avoir des élites, à condition que certaines de ces élites qui ne sont plus acceptent de revenir. Et donc là, on peut espérer un développement ensemble assez harmonieux. De ce point de vue-là, si nous franchissons ce cap, je suis plutôt confiant. Je crois que nous pourrons, c'est dans nos cordes. Et je dis toujours que moi qui m'occupe beaucoup de l'Europe, et je suis très obsédé par cette affaire européenne, et marie que les Européens eux-mêmes ne se rendent pas compte de l'amplitude de la révolution qu'ils sont en train d'accomplir. Je trouve que c'est la plus belle idée que le XXe siècle ait enfantée. Et on me dit souvent, est-ce que tu voudrais faire partie de cet ensemble? 75% des Israéliens voudraient rejoindre l'Union Européenne. C'est pour vous dire à quel point ils sont bien chez eux. Ils ne comprennent pas très bien ce que ça veut dire. Il y a un prix à payer pour ça. Mais bon, moi je pense que c'est une mauvaise idée. Je pense d'ailleurs que c'est irréaliste. Mais même si les Européens étaient prêts à nous accepter, je dirais non. Il faut faire l'Europe là-bas. C'est ça l'idée. L'idée, c'est de se servir de l'Europe comme une espèce de modèle et d'essayer de construire quelque chose qui ressemble, peut-être non pas à l'Union Européenne, mais qui ressemble à une confédération qui permette à tout le monde de se développer de concert.
Merci. Juste avant.
Trente secondes sur la question économique.
Mais bien entendu, pour répondre à monsieur, bien entendu que le territoire palestinien est viable économiquement, à condition que l'Europe soit un architecte de sécurité et également de finances, que l'Europe aide les Palestiniens à faire le port de Gaza, un port en eau profonde, pratiquement le seul de la côte, qui accueillerait des containers pratiquement un aéroport également, et surtout que les frontières s'ouvrent, notamment avec l'Égypte, et qui permettent le va-et-vient des biens. Mais on avait cette occasion-là avec l'Union méditerranéenne. Quand Sarkozy a sorti le 27 juin l'Union méditerranéenne, tout le monde a applaudi. Tout le monde s'est senti presque sarkozyste à un moment donné. Mais les Italiens ont pleuré, les Espagnols ont boudé, et les Allemands ont tapé du poing sur la table. Et on a accouché de l'UPM, l'Union pour la Méditerranée. Si vous trouvez ce que ça veut dire, dites-le moi, parce que moi je ne le sais pas.
Voilà, on va en rester là ce soir. Ce que je retiens de cette soirée, parmi beaucoup d'autres choses, c'est un peu le caractère d'urgence quand même de la situation. Nous le savons, mais nous l'avons réentendu ce soir. Vous avez dit quelque chose, Monsieur Barnavi, qu'il était important de faire aujourd'hui ce que nous devons faire. Alors je crois que parmi les choses que nous pouvons faire, on peut aussi prier pour Obama, on a bien entendu la leçon, mais c'est continuer à parler, à se parler, à montrer notre intérêt sur cette question, qu'elle ne passe pas à la trappe et qu'elle continue à nous importer à chacun, continuer à nous informer, à débattre. On peut ne pas être d'accord avec ce qui a été dit ce soir par nos deux intervenants, mais c'est bien qu'on ait pu les entendre et savoir aussi que nous continuerons ici et puis dans d'autres lieux à pouvoir, avec d'autres intervenants, à toujours tenir ce flambeau d'une parole entre nous et entre Palestiniens, Israéliens et tous ceux qui sont concernés par cette question.
Et même des Libanais.
Voilà.
Pardon, mon révérend père, mais pour reprendre la phrase du laïcard Voltaire, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. Merci.
Voilà. On se retrouve début octobre.